Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. 2 ans de prison ferme pour Jérôme Cahuzac. La peine prononcée par la cour d'appel devrait permettre à l'ancien ministre d'échapper à la prison. Les explications de Florence Thiom dans un instant. À Gaza, les Palestiniens enterrent leurs morts. 59 victimes hier tombées sous les balles israéliennes. Dans ce journal, le reportage de notre envoyé spécial Étienne Monin et le commentaire de notre invité, l'historien Vincent Lemire. La disparition de Tom Wolfe, l'écrivain américain est mort hier à New York à l'âge de 88 ans. Tom Wolfe, un rebelle conservateur, retour sur sa carrière avec Cécile de Cavazdoué. Jérôme Cahuzac échappera sans doute à l'humiliation d'un séjour en prison. La cour d'appel de Paris a condamné aujourd'hui l'ancien ministre du budget à 2 ans de prison ferme, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. En première instance, Jérôme Cahuzac s'était vu infliger 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. En ramenant la sanction à 2 ans, la cour d'appel a ouvert la voie à un aménagement de la peine. Les explications de Florence Thiom.
Point par point, le président de la cour d'appel est revenu sur les éléments de la décision prononcée en première instance et il confirme le jugement de culpabilité du tribunal correctionnel. Jérôme Cahuzac, reconnu coupable du délit de fraude fiscale, coupable du délit de blanchiment pour le compte ouvert à Singapour et de déclarations mensongères vis-à-vis du fisc. La cour d'appel reprend en substance les arguments développés par le tribunal sur la gravité des faits, la persistance à dissimuler et à nier. Elle ne retient pas non plus l'explication livrée par Jérôme Cahuzac à l'audience d'avoir voulu contribuer au financement d'une éventuelle campagne présidentielle de Michel Rocard. Le recours à l'emprisonnement est pleinement justifié compte tenu de la gravité des faits, disent aussi les deux décisions. Mais là où le tribunal correctionnel avait prononcé 3 ans ferme, susceptible d'envoyer directement l'ancien ministre derrière les barreaux, la cour le condamne à 2 ans ferme et 2 avec sursis, ce qu'avait d'ailleurs suggéré la défense, car dans ce cas, la loi permet un aménagement, le placement sous bracelet électronique, par exemple, à définir désormais par le juge d'application des peines. L'avocat de Jérôme Cahuzac, Éric Dupond-Moretti, salue donc une décision équilibrée, là où le parquet national financier, né précisément à la suite du scandale provoqué par l'affaire Cahuzac, avait fait de cette condamnation un véritable enjeu de société, avec comme seule peine possible une incarcération effective que le PNF n'a pas obtenue dans ce procès tellement emblématique pour lui.
Florence Thiom, mais parmi les nombreuses réactions politiques à cette condamnation de Jérôme Cahuzac, citons celle de François Hollande. L'ancien président évoque une peine exemplaire pour celui qui fut son ministre, une peine qui sanctionne, je cite, un mensonge à l'égard du chef de l'État et de la représentation nationale. Gaza a enterré ses morts aujourd'hui. 59 victimes tombées hier sous les balles de l'armée israélienne alors qu'elles étaient massées à la frontière. L'État hébreu affirme que de nombreux Palestiniens cherchaient à pénétrer sur son territoire. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accuse le Hamas qui contrôle Gaza de pousser les civils sur la ligne de tir. Les familles des victimes répondent qu'elles n'ont pas le choix. Le reportage à Gaza d'Étienne Mouna.
La pièce dans laquelle Jamila El-Mafar parle de son fils est remplie de femmes en tchador noir venues partager ce deuil au nom de la Palestine. Son fils Imad avait 24 ans et ce qu'il a dit à sa mère en partant vers la frontière, c'est qu'il comptait cette fois mourir en martyr.
Vous savez, moi, à la même heure, j'ai appris qu'un de mes fils était mort et qu'un autre était blessé. Mais je ne suis pas vraiment triste parce qu'ils se sont sacrifiés pour le pays.
S'il y a sur certaines tentes de deuil dans Gaza des drapeaux du Hamas, cette jeunesse ne se sacrifie pas au nom du mouvement islamique. En première ligne, on voit beaucoup de jeunes sans emploi qui n'ont rien à perdre. Cette prise de risque est au-dessus de tout, estime Sana El Ghoul, proche du jeune disparu.
C'est bien plus qu'un devoir, c'est une obligation pour nous, la Palestine. C'est notre terre, on veut vivre comme les autres. Aller à la frontière, oui, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est tout ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Dans la famille, un oncle a déjà perdu la vie. C'était il y a 23 ans pendant la première intifada.
Étienne Monin à Gaza, invité de ce journal, l'historien Vincent Lemire, maître de conférence à l'Université Paris-Est, auteur de Jérusalem, histoire d'une ville-monde. Bonsoir.
Bonsoir.
Vincent Lemire, Israël fait face depuis hier à une vague de critiques internationales, parfois très violentes. Alors est-ce que toutes ces critiques sont justifiées selon vous?
Écoutez, le bilan est quand même extrêmement lourd. Vendredi, il y a 6 semaines, le premier vendredi de la première marche du retour, il y avait 17 morts. Et tout le monde a été déjà horrifié, c'est le mot. Ensuite, les règles d'engagement de l'armée israélienne avaient été clairement modifiées. Les observateurs sur place, en particulier je pense à Piotr Smolar, le correspondant du Monde qui avait beaucoup travaillé à Gaza, et y compris du côté de l'armée israélienne, a constaté que deuxième vendredi, troisième, quatrième, cinquième vendredi, les règles d'engagement avaient été modifiées. Les règles d'engagement de l'armée israélienne sont très précises, hein. C'est une des meilleures armées du monde, une des plus disciplinées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on tire dans les jambes, dans l'abdomen, dans le thorax, dans la tête? Est-ce qu'on vise les hommes adultes, les femmes ou les enfants? Ces règles d'engagement avaient été modifiées et donc les vendredis suivants, il y avait un petit peu moins de manifestants, mais surtout il y avait beaucoup moins de morts, certains jours pas de morts du tout, beaucoup plus de blessés graves aux jambes. Et puis est arrivée la journée d'hier.
Alors, vous voulez dire que ces règles d'engagement finalement ont été durcies hier?
Alors il s'est passé quelque chose, honnêtement c'est une vraie question pour moi et c'est pas une question rhétorique, c'est une question que se posent beaucoup d'observateurs. Qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'il y ait 60 morts et 1500 blessés graves? 60 morts, ça veut dire voilà 60 personnes qui ont été quasiment visées à la tête. Hein. Alors évidemment, le contexte était très très tendu, mais aucun manifestant gazaoui n'a passé la fameuse barrière de sécurité. C'est à un moment, moi, dans le cours de la journée, je me suis demandé s'il y avait eu une intrusion et qui aurait pu expliquer ça. C'est pas le cas. Ces 60 morts ont été abattus à l'intérieur de la zone tampon, donc à l'intérieur de Gaza, à l'intérieur des frontières de Gaza. C'est pas ça qui s'est passé. Il y avait effectivement beaucoup de manifestants, mais pas beaucoup plus que le premier vendredi. On a surtout l'impression que le sentiment d'impunité des Israéliens est considérablement renforcé par le blanc-seing que lui donnent les États-Unis. Cette ambiance qu'il y avait dans la journée d'hier, cette espèce d'euphorie, de surexcitation, même chez Netanyahou, peut expliquer en partie ce qui s'est passé. Évidemment, avec un revers médiatique pour les Israéliens, parce que, évidemment, ce dont on parle aujourd'hui, c'est de ces 60 morts et pratiquement plus de l'inauguration de cette fameuse pseudo-ambassade à Jérusalem.
Mais tout de même, Israël dit que ces manifestants avaient l'intention de pénétrer sur son territoire. On peut aussi comprendre qu'un État cherche à défendre l'intégrité de son territoire.
Oui, oui, bien sûr. Le communiqué précis de l'armée israélienne ce matin, c'est qu'ils ont identifié 8 combattants du Hamas qui avaient du matériel pour couper la frontière et qui ont cherché à s'en servir. 8. Je parle bien du communiqué de l'armée israélienne.
Oui, mais si ces 8 combattants avaient ouvert la frontière, ça pouvait effectivement donner lieu à une vague d'incidents sur le territoire israélien.
Sans doute. Et y compris si on se place d'un point de vue israélien, je peux tout à fait vous rejoindre. Mais encore une fois, 8 combattants du Hamas, donc on peut dire voilà, qui ont été abattus pour ces raisons-là, il en reste 52.
Pour vous, Vincent Lemire, il y a à l'évidence un effet Trump sur l'attitude de Benjamin Netanyahou face aux Palestiniens.
Oui, pour la première fois, Benjamin Netanyahou a un allié sûr à Washington. Pendant son premier mandat, il avait Bill Clinton, qu'il freinait d'une certaine manière. Son deuxième mandat, Obama, qu'il freinait encore un peu plus. Et puis là, il a Trump, qui pratiquement l'encourage et, j'allais dire, parfois le double même sur sa droite ou sur son extrême droite, et l'accompagne en fait dans cette espèce de surenchère, alors que Netanyahou lui-même, par rapport à un agenda politique intérieur, comme Trump d'ailleurs, est engagé dans cette espèce de course sur sa droite. Donc effectivement, on a deux acteurs du conflit israélo-palestinien qui ne se régulent plus. Voilà.
Sur la question de l'ambassade américaine à Jérusalem, les Israéliens sont bien évidemment ravis parce qu'ils considèrent que Jérusalem, c'est la capitale éternelle d'Israël. Quel est votre sentiment, vous l'historien? Est-ce que cette idée selon laquelle Jérusalem, c'est la capitale éternelle d'Israël, correspond à une réalité historique?
Évidemment. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Jérusalem est la capitale culturelle, religieuse du peuple juif et Jérusalem est la capitale politique d'Israël depuis 1948. Si l'on ajoute Jérusalem-Ouest, et donc, encore une fois, très concrètement, il y avait une façon d'agir simple pour Donald Trump. Il y avait une façon d'agir, y compris en appliquant cette fameuse promesse électorale. Le 6 décembre, il aurait pu annoncer qu'il ouvrait une ambassade à Jérusalem-Ouest, et puis il aurait pu dire, on ouvre à Jérusalem-Est une ambassade, ou en tout cas un bâtiment qui sera la future ambassade du futur État palestinien à Jérusalem-Ouest, ou même un haut représentant auprès de l'autorité palestinienne. N'importe quoi pour conserver à Mahmoud Abbas un semblant de légitimité, un semblant de crédibilité, y compris vis-à-vis de sa propre population. Trump a pris un risque énorme, il a véritablement débranché politiquement Mahmoud Abbas, dont on voit que d'ailleurs il s'en est pas remis, hein, il est KO debout. Hier, on a attendu 21 heures pour avoir un communiqué de l'autorité palestinienne et de la présidence de Abbas. Donc, Jérusalem peut parfaitement être une ville partagée, une capitale partagée, sans être une ville partitionnée, sans être une ville avec une frontière au milieu. C'est ça la solution pragmatique évidente. Et là, Trump avait une possibilité, c'est pas moi qui la sors de mon chapeau, hein. C'était même à un moment un scénario envisagé dans la presse israélienne, on disait, et s'il annonçait en fait qu'il ouvrait deux ambassades ? Il aurait en fait appliqué son programme, il aurait tenu ses promesses, il aurait été disruptif comme il aime l'être, et il aurait ouvert en fait un nouveau cycle de négociations, il aurait permis aux Palestiniens de revenir à la table de négociation. Ils ne peuvent plus le faire dans la situation actuelle.
Vincent Lemire, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Jérusalem, histoire d'une ville monde, paru en 2016 chez Flammarion. Imaginez Vladimir Poutine au volant d'un camion, eh bien c'est possible. Le président russe a pris aujourd'hui les commandes d'un poids lourd pour inaugurer le nouveau pont routier et ferroviaire qui relie la Crimée à la Russie. L'ouvrage de 19 km enjambe le détroit de Kertch qui sépare l'ancienne péninsule ukrainienne du territoire russe. La Crimée que Poutine a annexée en 2014 et pour le maître du Kremlin, l'inauguration de ce pont fut l'occasion d'une nouvelle démonstration de son pouvoir. Le reportage de Claude Bruyot.
C'était un peu, au ralenti, le Grand Prix de Formule 1 à Sochi avant l'heure, mais sur le tout nouveau pont de Crimée, cet après-midi, personne n'avait le droit de doubler le chef de file, Vladimir Poutine en personne, en tête de colonne au volant d'un grand camion orange. Un président russe qui a profité de l'occasion, devant toutes les télévisions fédérales, pour flatter l'orgueil des ouvriers du chantier, bien loin des accusations occidentales de provocation. Nous continuerons à travailler sur des projets identiques dans tout le pays. Dans tout le pays, nous construirons de nouvelles autoroutes, de nouveaux ponts, de nouveaux aéroports et ports. Nous rendrons la vie de nos concitoyens meilleure. Et obligatoirement, nous gagnerons parce que nous avons des gens talentueux, remarquables, comme vous. Merci beaucoup à tous. Le symbole du rattachement de la Crimée à la Russie sera ouvert dès demain sur 19 km aux automobilistes. Le Kremlin souhaite ainsi mettre un terme à l'isolement économique de la péninsule en espérant atténuer les conséquences des sanctions occidentales.
Claude Debruyot, correspondant à Moscou. L'Ukraine dénonce bien sûr cette inauguration. Le Premier ministre ukrainien Volodymyr Groysman accuse la Russie de bafouer le droit international. C'était un monument de la littérature américaine, chroniqueur acide de ses contemporains. Tom Wolfe est mort hier à New York. Il avait 88 ans, auteur d'une dizaine de romans et d'essais. Tom Wolfe avait écrit en 1987 son livre le plus célèbre, Le bûcher des vanités. Cécile de Kervas-Douai, vous revenez sur une carrière exceptionnelle entre journalisme et littérature.
Après l'université de Virginie et un doctorat en études américaines à l'université de Yale, en fils de rédacteur en chef, il avait commencé sa carrière dans la presse, notamment au Washington Post, puis au New York Herald Tribune. Mais ce qu'il avait fait surtout connaître dans les années 60, c'est qu'il est devenu avec Norman Meyer ou Truman Capote l'un des fondateurs du nouveau journalisme. C'est-à-dire qu'il utilisait des techniques littéraires pour faire passer la réalité de ses reportages. Et c'est ce qui a marqué tout son travail, raconte l'un de ses amis intimes, l'écrivain Philippe Labro.
C'est un immense écrivain qui s'en va, romancier, journaliste, journaliste romancier, il a réussi à nous montrer que les deux disciplines peuvent se marier, et le nouveau journalisme, vous appelez ça comme vous voudrez, la faculté d'investigation, d'enquête et de rapport d'une réalité pour ensuite la transformer en fiction, ça n'a pas d'âge. Quand Tom s'est toujours réclamé de Balzac et de Zola, c'est pas par hasard. C'était des écrivains immenses qui, à la fois, captaient le réel pour ensuite en faire un travail d'imagination. Je l'avais surnommé Balzola. Moi, quand je l'écrivais cher Balzola.
Et dans ses romans touffus et très documentés, Tom Wolfe dénonçait une Amérique raciste, obsédée par le goût de l'argent, le laxisme face à l'alcool et la drogue, notamment dans les campus universitaires. Conservateur et soutien des républicains, il n'épargnait pas pour autant ses amis politiques et dénonçait aussi la corruption et le culte du paraître. Lui-même était d'ailleurs connu pour ses allures excentriques et sa grande élégance qui en avait fait un habitué des plateaux de télévision.
Cécile de Kervas-Doué. Le temps demain, des nuages et des averses orageuses sur la moitié est de la frontière allemande aux Alpes du Nord. Temps pluvieux également sur une partie du littoral méditerranéen. Partout ailleurs, les éclaircies s'imposeront après les brumes du matin. Température minimale autour de 10 degrés. Les maximales sont en hausse. Elles iront de 15 à 25 degrés de la Manche à la Provence. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.